Si vous écoutez le réseau Cogeco les soirs de ce temps-ci, vous entendez du hockey, mais c'est pas le Canadien, c'est un autre tournoi complètement, mais vous entendez une voix qui le décrit, ce tournoi-là, avec brio. Il est descripteur hockey pour le réseau Cogeco, il est au bout du fil. Martin McGuire, bonjour.
Bonjour, merci infiniment.
Ça fait plaisir.
Là, le championnat du monde junior, c'est ton camp d'entraînement avant la saison du Canadien.
Non, mais tu sais, Pierre, je veux dire une chose, je suis content de faire cet événement-là. C'est un événement prestigieux. Je pense qu'après les séries de la Ligue nationale, là, c'est probablement sur la planète hockey l'événement le plus prestigieux. Le mondial junior est même plus important pour les Nord-Américains, en tout cas, là, que le championnat du monde senior qui a lieu au printemps, ben oui. Pendant que nous, on suit les séries Stanley. Là, vraiment, le niveau est très, très relevé. D'une année à l'autre, là, on s'aperçoit que même les nations les moins bien nanties des dernières années, là, regardez hier, là, par exemple, là, dans les matchs de quart de finale, l'Allemagne, là, qui ont été décimées par la COVID avec Tim Stützle, ont quand même vendu leur peau très chèrement contre les Russes. Je pense que ça donne lieu de penser là, que le niveau de jeu est de mieux en mieux chez les juniors sur la planète. Mm-hmm.
Ben c'était pas comparable avec l'Allemagne le match d'hier là, c'était quand même on va se le dire un walk in the park quasiment là, pour le Canada contre la République tchèque.
Ça a pas été ça du tout. Tu sais, à prime abord, sur papier, on aurait pu penser, mais la République tchèque, là, sur le plan collectif, c'était une bonne équipe. Ils ont joué un système hermétique, là. Ils ont fermé le jeu. Ça, c'était pas une grande surprise. Ils l'avaient fait contre les Russes précédemment dans le tournoi préliminaire. Alors, André Tourigny savait exactement à quoi s'attendre. C'est comme ça qu'il a été servi. Est-ce qu'il était vraiment tout à fait content de son équipe? Peut-être pas, mais je pense qu'il faut pas enlever le crédit dit à la façon dont la République tchèque s'y est pris pour travailler contre le Canada hier, là, parce qu'après les deux premières périodes, là, les deux équipes étaient nez à nez au tir, puis c'était la première fois depuis le début du tournoi qu'un adversaire avait le devant sur les tirs pendant un match contre le Canada et réussissait à égaliser le nombre de tirs. Je pense qu'hier, entre autres, là, le Canada peut remercier Devon Levi qui a fait vraiment un travail exceptionnel hier.
Le prochain match, c'est contre les Russes. Le fait d'avoir eu à jouer un match hier plus compliqué que prévu, c'est peut-être une meilleure préparation que si ça avait été comme prévu, un walk in the park, comme on dit.
Ben, c'est sûr que c'est une bonne chose. Puis de toute façon, tu sais, c'est bon que tu prennes un petit peu d'adversité dans le nez là quand arrive ce genre de tournoi-là. Mais honnêtement, messieurs, l'équipe du Canada est bien préparée. Ils ont pas beaucoup de failles. Oui, on parle beaucoup des ils sont maintenant 19 choix de première ronde là, parce que Kirby ouais. Dach est parti en raison d'une blessure là. Mais on parle beaucoup de cette statistique-là. Mais au-delà de ça, je pense que il y a un sentiment de l'engagement collectif qui est vraiment important dans cette équipe-là. Là. En tout cas, pour moi, ça me frappe en les voyant jouer. Tu sais, je regarde un gars comme Jacob Pelletier. Là, lui, là, je peux vous dire qu'à toutes les fois qu'il embarque sur la glace, là, c'est l'équipe en premier. On l'a vu hier là, permettre, entre autres, au défenseur Goulet, le premier choix du Canadien, d'aller attaquer. Tout de suite, il remonte, prend la place à la défense. On sent un sens de la responsabilité commune dans cette équipe-là qui est assez... En fait, faut donner le crédit aux joueurs pour ça, mais aussi à l'entraîneur qui a quand même vendu ce concept-là puis qui a été acheté par les joueurs.
Mm-hmm. Demain, ça va être contre les Russes, donc les deux équipes s'étaient affrontées en match préparatoire.
Oui.
Je me souviens plus, le Canada avait gagné, je pense.
Oui, oui. Mais écoute, ça avait été serré parce que ça s'était terminé 1-0 là.
Oui, c'est vrai.
Et vraiment là, le Canada et la Russie sont deux grands adversaires, là, deux grands rivaux dans ces compétitions là, que ce soit les seniors, que ce soit aux Jeux Olympiques avec les pros. Canada-Russie, c'est spécial. Ça aurait été spécial contre les Américains aussi, mais je pense que ça l'est encore plus. Comment?
Ça va l'être mardi en finale.
Ah oui, t'es sûr de ça?
Non. Mais je le souhaite.
Non.
Mais moi, je vais assister à une gageure en direct entre Vez et Martin. Ce serait le fun.
Ah ouais?
Non? OK.
Ah, écoute, moi, je...
je pense qu'on va gager sur la même affaire.
Oh.
Si une certaine logique était respectée, je dirais les Canadiens vont affronter les Américains en finale.
Ben, c'est
Sauf que, moi, il y a une chose. La Finlande, quand ils ont joué le Canada... Et ça n'a pas été leur meilleur match, mais c'est une équipe solide. Puis hier, là, les Suédois avaient les devants 2-0 mm-hmm. sur eux. Puis les Suédois, sur papier, c'était une meilleure équipe que la Finlande. Alors vraiment, ils ont montré beaucoup de résilience hier. C'est pour ça que je trouve que les Américains ne l'auront pas dans la poche. Puis il y a une autre affaire qui m'énerve un peu des Américains, c'est que leur gardien vedette, Spencer Knight, donne au moins un mauvais but par match, des fois deux, depuis le début du tournoi. Okay. De sorte que même, là, je me demande même si les Panthers de la Floride, là, en repêchant Levi en septième ronde, comparativement à Spencer Knight en première ronde, je me demande lequel des deux qui va rendre le plus de service, mais ça, bon, on attendra dans une couple d'années, mais moi, avec les Américains, c'est ça qui me chatouille. Leur gardien donne de mauvais buts. Le gardien de la Finlande, c'est un gardien très solide. Ça va peut-être jouer dans l'affrontement, mais évidemment, ça pourrait être un affrontement Canada-États-Unis. Par contre, la saveur de l'affrontement de demain, demi-finale Canada-Russie, pour moi, c'est imbattable.
Mais de toute façon, tu parles des gardiens, puis c'est souvent rendu à cette période-ci, à cette phase-là du tournoi, c'est souvent les gardiens qui vont faire la différence.
Ouais, parce que bien évidemment les équipes sont assez solides. Là. Les Américains, écoutez sur papier, là, vraiment c'est une bonne équipe. Là. Vous allez voir là, ceux qui ont peut-être pas vu les matchs précédents. Là, le premier choix des Sénateurs d'Ottawa. Sanderson, voilà, merci. Alors,
on t'a beaucoup aidé, on t'a vraiment aidé.
Non, mais il est venu. C'est le fils de Jeff Sanderson qui a joué dans la Ligue nationale. Vous allez voir ce défenseur là qui est capable de contrôler le jeu là, presque à lui seul. J'aime beaucoup leur joueur de centre Zegras qu'on retrouve entre autres de temps en temps en avantage numérique avec Caulfield. Caulfield a un bon tournoi. Il remplit pas le filet de rondelles, mais ça, je pense qu'on s'en attendait. Là. Mm-hmm. C'est quand même la crème des joueurs juniors au monde. Là. Alors, tu sais, il y a des éléments du côté des Américains là qui nous permettent de croire que il y a absolument rien dans la poche. Dans le carré d'as, là, ces matchs-là, sans lendemain, t'en joues de mauvaise, tu prends de mauvaises pénalités, tu sais, ton gardien te donne un mauvais but au mauvais moment, puis c'est fini, là, tu ramasses tes valises, puis tu sors de la bulle.
Exact. Martin, on va se rapprocher de nous autres, puis on va partir d'Edmonton pour se rendre à Brossard. Parce que ça commence enfin aujourd'hui, le camp d'entraînement du Canadien. Pas sur la glace, mais demain sur la glace.
C'est ça, là. C'est pas aujourd'hui qu'on va voir les joueurs sauter. Fait comme, OK, on se fait les passes de rondelles, puis let's go.
Non, c'est demain. Aujourd'hui, ce sont des tests médicaux et des tests physiques. Là. Puis aujourd'hui, c'est l'adresse à la nation de Marc Bergevin. Alors, comptez de 13h, Bergevin va répondre aux questions des médias. Évidemment, ça se fait encore de façon virtuelle, puis ça va se faire comme ça toute l'année, de toute façon.
Ah oui, alors, c'est toute l'année, c'est déjà confirmé?
Oui, les accès médias là, chez le Canadien vont se faire de façon virtuelle. Même les journalistes qui iront sur place pour les matchs, tant au Centre Bell que sur les patinoires extérieures, vont avoir des accès que virtuels avec les joueurs. Quand vous allez voir les matchs à la télé, là, vous allez voir une personne durant les entractes, comme en série cet été, là, mm-hmm. une personne durant les entractes avec un micro perche là et masqué bien sûr là poser des questions à un joueur mais c'est la seule personne qui aura accès c'est-à-dire ce qu'on appelle là, en termes de métier le fameux sideline reporter là le troisième homme d'une équipe de télévision qui est toujours au niveau de la glace là c'est la seule personne qui aura le droit de rencontrer les joueurs disons en personne.
OK, ça fait que donc il y a personne qui rentre au complexe d'entraînement Bell à Brossard.
Oui.
Les journalistes vont pouvoir y être?
Les journalistes ont accès.
Mais restez à distance.
C'est la différence. C'est la différence avec cet été, Pierre, parce que, bon, on avait accès à Brossard parce que de la façon dont c'est structuré là-bas, là, la patinoire est entourée là, par une espèce de bulle de verre. Là. Mm-hmm. Alors, on n'est pas vraiment en contact physique direct là, avec la patinoire dans l'enceinte comme telle. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Puis la différence avec le retour cette année versus les séries, la Ligue nationale a permis aux journalistes d'assister aux entraînements dans les enceintes, à l'intérieur des arénas, mais évidemment, ça va être très loin de la patinoire. Mm-hmm. Il y a un seul club qui refuse l'accès aux journalistes à la patinoire, les Sénateurs d'Ottawa.
Pourquoi?
Parce que ce sont les sénateurs d'Ottawa.
Ah, OK, d'accord. Non, mais c'est parce que je pose la question, Martin, parce que ça, c'est difficile pour votre travail de ne pas être là sur et de voir, tu sais, l'histoire des fois où le papier ou le reportage, c'est ce qu'on voit pas, ce qu'on, tu sais, ce qui se passe à côté de la patinoire ou un joueur un peu
c'est
plus loin.
Vrai.
C'est ça l'histoire des fois.
C'est tellement vrai parce que souvent on me demande là, elle est où ta préparation? Ben moi je peux dire que 70% de ma préparation elle est quand je vais voir les entraînements. Ouais. Moi j'aime beaucoup voir les entraînements, j'aime voir ce qu'ils font, j'aime voir comment ils font. Ça me prépare énormément au travail de descripteur là. Il y a beaucoup d'informations qui sortent de là parce que l'autre partie de mon travail c'est du reportage et tout ça des directs. Alors pour moi ça a été très frustrant cet été puis tu sais, il y a des organisations qui avaient promis aux médias, à la Ligue nationale, de fournir des images des entraînements. Mais bien évidemment, là, on avait pas mal plus Jonathan Drouin les cheveux au vent que dans les images qui avaient été fournies par le Canadien que de voir Jonathan Drouin où est-ce qu'il se plaçait sur l'avantage numérique, vous comprendrez avec moi.
Quoi, il y a du contrôle d'information, Martin?
Ben oui, écoute, on savait pas que c'était possible.
Ben,
ça,
ben non. Hein? Je savais pas, mais ça vient me chercher, là.
Non, mais tu sais, bien évidemment, là, ça c'est un pas en avant pour tout le monde. Puis de toute façon, la Ligue nationale veut faire un succès avec ça, là. Alors, tu sais, ils ont durant les séries cet été, les codes d'écoute à la télé ont pas été exceptionnels, là, du moins du côté américain. Là, on veut faire différemment, puis ce qui va nourrir justement l'intérêt pour les gens, pour les matchs, ben ce sont les à côté dont tu viens juste de parler là, tu sais, c'est là que les histoires se prennent et tout ça. Je sais que même l'association des chroniqueurs là, de la presse écrite qui suit les activités de la Ligue nationale négocie aussi pour avoir accès à des joueurs dans les entrevues un à un là. Ça va peut-être être un peu plus difficile là, parce que maintenant, sans dire que c'est un contrôle d'information, ça l'est peut-être à quelque part, mais je pense que les équipes de la Ligue nationale aiment bien réserver, entre guillemets, ce qu'on appelle les features pour leur propre site Internet, plutôt que de les envoyer sur les sites Internet des autres médias. Alors ça reste à voir comment ça va se définir, là. Mais c'est sûr que en temps de pandémie comme ça, le fait qu'il n'y a pas de spectateurs, la couverture est un peu différente pour nous, là. Tu sais, là, d'aller placoter dans le vestiaire une minute ou deux de plus après une mêlée de presse là, avec un joueur, avec un entraîneur, ça c'est terminé.
Surtout qu'il y en a plusieurs nouveaux, là, ça va être difficile de faire connaissance.
Super. Écoute, on les connaît quand même pas mal, là. C'est pas des visages complètement étrangers, là. C'est des gars, en tout cas, je parle pour moi personnellement, parce que je fais le tour de la Ligue une couple de fois depuis une couple d'années, là. Alors, on les connaît un petit peu. Je pense que là-dessus, c'est pas trop mal. On sait à peu près à quoi s'attendre avec ces joueurs-là. Mais souvent, dans le vestiaire, pourquoi c'est si précieux l'accès au vestiaire? Ben, c'est un peu ça. Souvent, il y a le non-verbal que t'es capable d'observer. Tu finis par savoir quand on te ment et quand on te dit la vérité, quand tu connais un peu les joueurs, quand tu connais leur façon de parler, leur façon de répondre, dans les silences aussi, parfois, il y a des réponses là. Alors, ça, c'est l'élément qui manque un peu dans notre métier, puis qui va manquer encore durant la prochaine saison, parce que un silence sur un Zoom, là, ça peut être bien des affaires, ça peut être juste la connexion Internet.
Oui, oui. J'ai sorti 4 points... de choses à observer dans les premières journées du camp d'entraînement. Le premier, c'est la confirmation de la progression des Kotkaniemi et Suzuki. Ah, oui. Le deuxième, c'est la découverte de Romanov dans un contexte de Ligue nationale. Le troisième, c'est les rôles précis qu'on va donner aux Toffoli, Anderson, Perry, Frolik et Edmundson. Et aussi le retour, comme quatrième point, le retour de Claude Julien.
Ah oui, c'est vrai?
Oui, absolument. Claude est dans une forme resplendissante, soit dit en passant. Quand on lui a le dernier zoom qu'on a fait avec lui, là, puis remarquer également qu'il avait perdu un peu de poids, il semblait bien. En tout cas, il nous l'a confirmé que ça allait bien. Et ce genre de chirurgie-là, ben, c'est pas moi qui le dis, là, c'est ceux qui pratiquent les chirurgies qui disent que justement la chose merveilleuse là-dedans, c'est que après les gens se sentent mieux. Alors, ça semble être le cas pour Claude. En ce qui a trait aux autres questions, ben, tu sais, moi je pense que Frolic va être un peu plus un réserviste. Mm-hmm. Moi j'ai l'impression que Corey Perry, à moins que ça aille vraiment mal pour lui là, je pense qu'on va le retrouver plus régulièrement dans l'alignement parce qu'il joue sur le quatrième trio. Il y a une présence physique, mais surtout aussi, Pierre, parce que je pense qu'il peut leur donner une deuxième vague de jeu de puissance. Mmh. Écoute, chez le Canadien, là, il y a Brendan Gallagher qui va au filet. Là, il y a Josh Anderson qui va y aller. Là, c'est plus sa tasse de thé. Mais à part ces deux-là, le seul autre dont c'est la spécialité d'aller se planter deux pieds devant le gardien adverse puis de faire dévier des rondelles, c'est Corey Perry. Ça a été son pain et son beurre pendant plusieurs années. Ça va l'être encore parce que je pense qu'à 35 ans, il changera pas, là. Mm-hmm. Alors, tu sais, je pense que lui, peut-être ce petit atout-là, il y a toujours des blessés de toute façon. Alors, ces gars-là vont probablement jouer. Dans le cas de Suzuki et de Kotkaniemi, moi, je vais attendre les matchs. Ouais. Je pense que Suzuki, de toute façon, était un petit peu en avance sur Kotkaniemi. La chose qu'on savait pas, c'est jusqu'à quel point Kotkaniemi peut le rattraper dans sa progression. J'étais un petit peu encore en attente là, parce que tu sais, Kotkaniemi, là, soyons honnêtes, là, il a joué 6 bons matchs l'année passée, mm-hmm, avec le Canadien. Ouais. Ça a été 6 bons matchs pendant les séries cet été.
Ouais.
Alors, tu sais, je m'emballe pas trop avec 6 bons matchs, là. D'ailleurs, la ligne de centre du Canadien, là, moi, je me pose aussi la question parce que, à part Philippe Danault, il y a aucun joueur de centre chez le Canadien au moment où on se parle qui a joué au moins 150 matchs dans la Ligue nationale.
Alors les postes sont ouverts.
Ben puis ça veut pas dire que la solution, la fameuse solution du quatrième centre, là, ça veut pas dire qu'elle viendra pas de l'extérieur non plus, là.
Mm-hmm.
Parce que ça aussi, là, tu sais, la façon dont Marc Bergevin a monté son équipe, là, je pense qu'il veut y aller all-in pour cette année.
Ouais, ben en tout cas, il s'est donné une chance.
Il veut s'essayer.
Il s'est donné une chance.
Il s'est donné une chance. Il y a pas l'équipe parfaite, là. Il n'y a pas l'équipe parfaite pour aller là. Sauf que il a probablement regardé les Stars de Dallas en finale, là, mm-hmm, puis il a dit, je pourrais être pas trop loin d'eux autres avec une coupe de changement. Puis pour ça que je crois, moi, que sur ce fameux quatrième centre, le Canadien est peut-être mieux, vu ses ambitions à court terme, d'y aller avec un vétéran, de trouver un vétéran quelque part, un gars qui va peut-être être, disons, un petit peu mieux que Nate Thompson, là, mais au moins bon dans les mises en jeu, parce que pendant les séries, là, Kotkaniemi et Suzuki, à un moment donné, là, c'était Philippe Dano dans le cercle de mise en jeu.
Mm.
Alors, tu sais, s'il y a une réalité là, qui, pour moi, est évidente. Suzuki et Kotkaniemi ont du potentiel. Il n'y a vraiment pas de trouble là. Suzuki, là, il va être éventuellement le centre numéro un de l'équipe. Il pourrait peut-être même le devenir cette année. Mais je préfère me garder une petite gêne.
Martin McGuire, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Moi, j'ai pris une résolution. En t'écoutant parler, là, puis en t'écoutant parler avec Vel, j'ai pris une résolution pour 2021. Je veux m'informer pour savoir de quoi vous parliez dans les dernières minutes.
Ben, sais-tu, ça aura quelque chose de positif, notre conversation ce matin, ça va t'avoir donné le goût.
Ben oui, voilà. Ça, oui, à toutes les fois que je t'entends parler, Martin, je fais comme, j'en connais vraiment pas assez sur le hockey, faut vraiment que je me renseigne. Écoute, Martin, on t'entend demain soir durant le match Canada-Russie à 18h sur nos ondes.
17h30 pour notre émission d'avant-match. Canada et les Russes, c'est peut-être la finale avant la finale.
Mm-hmm. Ça serait le voilà. Fun, ça. Merci beaucoup, Martin, bonne journée, bye bye. Merci d'avoir été là. Il est tellement... Vous êtes, je niaise pas, là, vous êtes fascinant à entendre parler les deux ensemble, parce que...
mais j'aimerais ça. Que les gens peuvent suivre aussi, là, tu sais...
Je niaise, mais c'est super accessible, là, mais je peux pas jaser de ça avec autant d'aisance que vous autres. Moi, dans ma tête, Patrick Roy est encore en arrière début au Canadien.
Oh boy, là, t'as vraiment du rattrapage à faire, là, par exemple.
Ouais, il faudrait que tu ouvres le journal par la dernière page en arrière de temps en temps.
Même moi, je m'y connais plus que toi, là.
Rastitine est rendu où, lui?
Qui?
C'est ça.
Rastitine?
Kostitine?
Ah, Kostitine, il est pas mal chez eux en Russie ou en Ukraine ou je sais pas trop où, là.
Courte pause au retour, on parle avec l'érudit Sieur de Terrien.
Que Québec se lève. Que Québec se lève.